Merci, quelle grâce de vivre ces moments. Alors je vais finir de m'installer. C'était pas évident parce que chaque année, c'était un peu... ça m'arrive souvent de... ça nous arrive souvent de faire un genre de compte-rendu ou d'essayer de redonner à l'Église ce qu'on a vécu dans cette conférence Resonate où on va chaque année. Alors attendez, excusez-moi... que je sois sur le bon document. Voilà. Et du coup, cette année, je savais que c'était moi qui étais de service ce matin. Ah, merci beaucoup. Mais j'attendais un peu de voir ce qu'on allait vivre à Bedford pour essayer voilà, de vous transmettre ça. Et effectivement, comme l'a dit Elo, c'est vrai, beaucoup d'aspects, beaucoup de choses que Dieu nous dit ces derniers mois sont ressorties et on sent vraiment l'Esprit de Dieu qui parle dans le monde entier de manière unie. Et c'était très très encourageant, ça nous a beaucoup encouragés. Et je ne sais pas pourquoi, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que j'avais ce passage de Gédéon et des 300 dans le cœur, voilà, par rapport à ce qu'on vit, je sentais Dieu toucher mon cœur par rapport à ça. Et puis ça a été évoqué, ce passage a été évoqué alors qu'on était à Bedford par un de nos amis, Phil, pour ceux qui le connaissent, il est déjà venu ici avec une équipe. Et puis là, pareil, hier ou avant-hier, je sais plus. Non, hier, mon ami Olivier qui m'envoie un message, il me dit c'est fou, on ouvre, ils ont leur Bible en famille là, qui suivent comme certains d'entre nous, et on tombe sur le passage de quoi ? Gédéon et des 300. Donc voilà, merci Seigneur qui confirme. Je voulais juste quand même faire une des fois, parce qu'après on a des questions qui nous sont remontées ou des incertitudes ou quoi par rapport à l'Église, par rapport au choix. Et pour vous dire que on continue, c'est très important de savoir d'aller à Bedford, à l'Église King's Arms, qui reste notre famille. Vous savez que par rapport au choix qu'on a fait d'Église, au choix de pastorat, d'anciennat féminin, eh bien on n'a pas pu institutionnellement sur les papiers continuer avec cette famille d'église, mais ça ce sont les papiers, ce sont les signatures. Le cœur est toujours bien sûr lié à cette église, à cette communauté, à tous ces amis qu'on a là-bas, et c'est pour ça que chaque année on insiste pour emmener surtout toute une troupe de leaders, de responsables de l'église, surtout les nouveaux qui ne sont jamais venus. Pourquoi ? Pour qu'ils puissent vraiment, et c'est ce que je leur disais quand on était dans ces murs là-bas, regardez, c'est tout ce qu'on vit à Montélimar, Grenoble, Gap, tout ça, c'est né dans ce lieu. C'est dans ce lieu qu'on a été visité par l'Esprit, que Dieu nous a parlé, que les premières prophéties ont été données, qui ont donné les églises Connect Montélimar, puis Grenoble, puis Gap maintenant, et d'autres qui sont à venir. Donc c'est très important que vous compreniez que ce n'est pas parce qu'il y a des décisions douloureuses et coûteuses dans les larmes qui ont été prises que notre relation, notre amitié, là-bas, ça reste notre maison, ça reste notre maison mère, ça reste des papas et des mamans spirituelles pour nous, et ça ne changera jamais. D'accord ? Donc voilà, au moins c'est bien clair pour tout le monde, il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Et c'était beau avec les anciens là-bas de l'église de pouvoir se redire combien on s'aimait et combien on voulait continuer d'avancer ensemble. Donc ils ont même créé un statut un peu à part pour nous, pour qu'on puisse continuer à participer à ces rassemblements. Donc voilà, merci Seigneur des relations qui vont au-delà de certaines décisions qu'on doit prendre devant Dieu. Donc voilà, merci en tout cas, et puis merci au Seigneur pour tout ce qu'on a pu vivre. Vous savez, c'est des temps, c'est pas juste une conférence où on va pour recevoir. Bah, déjà pour nous, en tant que responsables de l'Église, ça fait tellement du bien d'aller dans un endroit où c'est pas nous du coup qui devons porter, c'est pas nous qui devons organiser, c'est pas nous qui devons avoir le souci de ci, de ci ou de ça. On peut juste y aller, enlever notre casquette de leader et recevoir et être touché par Dieu. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment, ça fait vraiment du bien. Et je pense que c'est nécessaire. Si un leader, un responsable, un pasteur, un ancien n'est pas capable d'enlever son chapeau de leader, de responsable, pour être juste un simple enfant de Dieu qui a besoin d'être ressourcé, besoin d'être nourri, ben il y a un souci quelque part. Et c'était très bien de pouvoir faire ça, de pouvoir aussi, être enseigner, oui, voir ce que l'Esprit disait à, voilà, il y avait des gens de Russie, du Mexique, d'Espagne, d'Allemagne, de Suisse, il y avait vraiment des gens un peu du monde entier. Et c'était, on a vu aussi des vidéos de choses qui se produisaient en Afrique avec vraiment plein de choses. Et puis aussi, c'est vrai, de pouvoir se retrouver avec les Grenoblois les gars pensés, avec tous nos amis de Paris aussi, l'église CVV Paris. On était une quarantaine de Français quand même, à tel point que des fois, ça arrivait à Olivier d'avoir un chant inspiré en français. Et si vous voulez, d'un coup, les chants français couvraient la balle. Donc, c'était beau. Et je veux vraiment vous le dire, parce que ce Phil m'a dit ça en clôture de conférence, et ça m'a vraiment touché. Mais il m'a dit, mais tu sais, Mathieu, on a besoin de vous. Oui, vous venez ici pour recevoir, etc. Mais nous, on a besoin de vous. On a besoin de ce que vous apportez. Vous nous faites un bien fou. Et voilà, c'est vraiment un échange. Et donc ça, on peut vraiment glorifier Dieu, parce que nous, on a démarré là-bas. On n'avait aucune expérience de leadership, enfin, peu d'expérience de leadership, etc. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une relation mutuelle avec cette église King's Arms à Bedford. Et ils vous aiment. Et tout le monde parle de Montélimar. Ils n'arrêtaient pas de dire oui, mais Montélimar, on aime aller à Montélimar, etc. Et voilà, quelle grâce de vivre ces moments. Amen. On va ouvrir la Bible. Juste avant, je vous propose de prier. Mais Seigneur, voilà, Seigneur, on est rempli de reconnaissance pour toi. Vraiment, mais que tu es bon, Seigneur, mais que tu es bon, Seigneur, de déverser comme ça, de déverser tes grâces sur nous jour après jour, Seigneur. Merci pour ce qu'Héloïse nous a rappelé, Seigneur, que tu as payé un grand prix pour être unis avec nous, Seigneur, pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Seigneur, tu as versé ton sang et nous vivons dans la grâce de ça. Et Seigneur, dans les bons moments de notre vie, mais aussi et peut-être surtout dans les défis, dans les épreuves que nous vivons, tu es toujours là, tu es toujours présent, tu agis, Seigneur. Et nous savons qu'on n'est pas juste là à errer, Seigneur. Nous allons quelque part avec toi. Un jour, tu reviens, tu nous emmènes avec toi, mais dès à présent sur la terre, Seigneur, nous allons quelque part avec toi. Merci, Jésus. Amen. Donc, je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le livre des Juges, au chapitre 6. Alors, je vais voir, je ne sais pas si je vais avoir vraiment le temps de dire tout ce que j'ai prévu. Encore une fois, c'est un message un peu de dernière minute, mais qui va un peu compléter ce que je vous ai parlé, ce dont je vous ai parlé il y a 15 jours, sur la parole, vous savez, qui devait fructifier en nous, à laquelle on devait ensuite obéir et qu'on devait vraiment aussi transmettre. Vous vous rappelez de ça ? C'était il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, lisons un petit peu ce livre des Juges. Donc vous savez, le livre des Juges, alors il y a une tradition juive, j'ai vu ça, qui dit que c'est peut-être Samuel qui l'aurait écrit, on n'est pas du tout sûr. Mais ce livre, ça prend la suite après la conquête de Canaan, enfin c'est toujours la conquête de Canaan en fait. Et Dieu demande vraiment à Israël, à chaque tribu en fait, d'éliminer, d'enlever les locaux, quoi, les Cananéens qui sont là. Et malheureusement... comme souvent, le peuple de Dieu, ben voilà, ils n'obéissent pas, en tout cas, pas tous de la même manière. Et il y a les peuples locaux qui restent sur place. Et puis, malheureusement, qu'est-ce qui se passe aussi ? Ben, comme souvent aussi, Israël se met à même prendre les coutumes des Cananéens, des locaux, et même à commencer à adorer leur Dieu et à construire des autels, tout ça pour les dieux, et notamment le dieu Baal, hein, vous savez, dont il est souvent parlé dans la Bible, mais j'y reviendrai. Et du coup, voilà, comme souvent, et comme souvent j'ai envie de dire dans notre vie, c'est un peu pareil, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Israël ben voilà, se détourne de Dieu, au bout d'un moment ça devient la grosse galère, du coup ils se repentent, et là Dieu envoie une succession comme ça de personnes qu'il appelle pour libérer son peuple, et c'est ce qu'on appelle les juges avant qu'il y ait des rois. Et donc là on va lire sur un de ces juges, Gédéon, Juges chapitre 6. Donc je commence... Je vais aller assez vite, accrocher un petit peu vos ceintures. Donc les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. L'oppression des Madianites fut si dure que les Israélites s'aménagèrent des abris dans les cavernes, les grottes et les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leur campement dans le pays et détruisaient les récoltes jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils arrivaient en grand nombre, comme des sauterelles, avec des troupeaux et leurs tentes. Eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils envahissaient le pays pour le ravager. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites, et ils implorèrent l'Éternel. Lorsque les Israélites implorèrent l'Éternel à cause des Madianites, il leur envoya un prophète qui leur dit « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, de ce pays où vous étiez réduits à l'esclavage. Je vous ai délivré des Égyptiens, de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne vénérez pas les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays, mais vous ne m'avez pas écouté. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparaît et dit « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier !» Gédéon lui répondit « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abat-il sur nous ?» Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte ? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Et là, petite pause dans le récit avec cet ange donc, qui parle à Gédéon. Et qu'est-ce qu'on peut voir ? Qu'est-ce que ça nous dit sur Dieu ? Eh bien, c'est que Dieu, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est vraiment un Dieu qui est patient, qui est compatissant. Voyez que, comme on vient de le lire, Israël voilà, se détourne, puis se repent, puis se détourne. Mais il y a toujours cette tendance que le peuple de Dieu a à s'éloigner de son Dieu. Il peut y avoir les plus grands prodiges, les plus grands miracles. On le sait, mais rappelons-nous encore une fois, il les a fait sortir d'Égypte. Il a ouvert la mer en deux pour qu'ils puissent sortir d'Égypte. Mais non, ils l'oublient et ils adoptent les dieux des étrangers comme il leur avait surtout dit de ne pas le faire. C'est pas comme si les Israélites étaient un peu livrés comme ça à se dire tiens, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on devrait faire ci ? Est-ce qu'on devrait faire ça ? Non, Dieu les a conduits clairement, les a fait sortir du lieu d'esclavage. Il les a conduits dans ce pays de Canaan où coule le lait et le miel. Il leur donne des instructions qui sont très claires, mais eux volontairement font le mauvais choix. Et encore une fois, ne blâmons pas nos frères et sœurs du peuple de Dieu parce que, ben, en fait, je pense que nous faisons exactement la même chose. Et moi-même, personnellement, je peux vous le dire, j'ai été témoin de miracles extraordinaires. J'ai vu des gens guérir, et vous l'avez vu, on l'a vu même ici ensemble, on a vu des gens guérir de cancer, on a vu des gens guérir de choses extraordinaires. Non, on a vécu, nous personnellement, en famille, des percées dans plein de domaines, même dans le domaine financier, des milliers d'euros qui nous étaient donnés. On a vu des choses incroyables, et pourtant, notre cœur oublie. Notre cœur oublie. Et là, voilà, Gédéon remet en cause un peu ce que l'Éternel dit, ce que Dieu a fait, etc., pour dire, mais non, il nous a abandonnés et il nous a livrés au pouvoir des Madianites. Donc, Dieu est patient, il est compatissant, il nous parle, il envoie un prophète pour parler. Encore une fois, il n'y a pas de doute, Dieu envoie quelqu'un pour parler. L'homme, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il se plaint. Et aussi, qu'est-ce qu'il fait ? Il se victimise. Ils disent, non, on est victime, c'est pas de notre faute. Vous savez, et ça, c'est quelque chose même qu'on retrouve parmi les personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Qu'est-ce que souvent, c'est la phrase un peu classique, mais s'il y avait un Dieu, pourquoi il y a des guerres ? Pourquoi il y a des choses exactes ? Comme si ça devrait être, tout ce qu'on fait, nous, les hommes de mal, devrait être à cause de Dieu, la faute de Dieu. Et en fait, on remet sur Dieu la faute, alors que lui, il nous envoie des solutions, il nous envoie Jésus, il nous envoie des prophètes, il nous parle au quotidien, il est là, son esprit est présent à chaque instant en nous. Mais non, nous, on a cette tendance de dire, mais Seigneur, pourquoi il m'arrive ci, pourquoi il m'arrive ça ? Et on se victimise. Et là, vraiment, Jésus est vraiment un modèle extraordinaire dans tout ça. Jésus, le Fils de Dieu, qui est vraiment Dieu incarné en homme, et qui nous dit, qui lui ne fait pas la victime. Lui, quand il est là, alors qu'il va subir le châtiment ultime, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, personne ne prend ma vie. Personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne volontairement. Donc il y a cette décision ferme dans le cœur de Jésus de mourir et de pas de se plaindre à son Dieu. Et bien sûr, il dit pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais dans ce cri un peu intérieur, immédiatement, il dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Il y a un choix délibéré de ne pas être victime. Amen. Mais du coup, qu'est-ce qu'on voit ? Ben que Dieu est merveilleux. Et dans ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit à Gédéon ? vaillant héros. Gédéon lui répondit, de grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent sur nous? Où sont donc ces prodiges? L'Éternel nous a abandonnés. Et du coup, on continue à lire au verset 14. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais Gédéon répliquant, de grâce, Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. Et là encore, exactement pareil, le même échange un peu entre Gédéon et Dieu et l'ange. Va avec cette force que tu as. Donc Jésus, Dieu le mandate, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc il lui dit que c'est lui qui l'envoie, c'est Dieu lui-même qui l'envoie. Mais Gédéon réplique, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé et je suis le plus jeune. Donc Gédéon n'arrête pas de se dévaloriser, quoi. C'est incroyable. Dieu lui dit, je suis avec toi, c'est moi qui t'envoie, et Gédéon n'arrête pas de se dévaloriser. Et encore une fois, je pense qu'on peut vraiment se retrouver là-dedans, mais de voir comme c'est merveilleux, comme Dieu n'attend pas. Heureusement que l'on ait tout compris, n'attends pas qu'on se reprenne et qu'on dise non, ok Seigneur, j'ai compris la leçon, parle-moi, envoie-moi. Non, même dans cette complainte un peu perpétuelle de Gédéon, Dieu lui redit combien il est Dieu, que c'est lui qui l'envoie. Et c'est ça qui est beau, c'est que malgré nos fautes, malgré notre péché, malgré cet apitoiement sur soi qui nous caractérise si souvent, Dieu nous envoie, Dieu nous fait confiance et Dieu continue de vouloir nous utiliser. Et vraiment, ça nous a parlé, pour faire un petit lien avec ce qu'on a vécu à Bedford, on réalisait, c'est Phil qui expliquait ça, on réalisait que, vous savez, alors que maintenant on a vraiment à cœur, après ces 10 ans, d'être dans la multiplication maintenant de nouveaux leaders, de nouvelles églises, etc., que c'est pas évident, parce que qui dit multiplication dit faire confiance à la nouvelle génération, faire confiance à des plus jeunes, faire confiance à d'autres. Et vous savez, quand on est un peu installé, aujourd'hui on est une église un peu plus installée, ça fait 10 ans qu'on est là, ça a beaucoup grandi, il y a plein de choses géniales qui se passent. Et bien moi-même, je me rends compte que qu'est-ce que c'est dur des fois de faire confiance à des plus jeunes ou à d'autres gens qui n'ont pas forcément, avec qui on n'a pas tous cet historique. Sauf que, et c'était ce qu'on disait aussi à Bedford, si on se rappelle... À l'époque, moi, pour vous raconter une anecdote, on était à Bedford, donc on était en formation, j'étais stagiaire de Simon, et Simon avait été invité à être l'orateur d'une grande conférence en Turquie, à côté d'Istanbul, et du coup, il avait proposé à une équipe de l'accompagner, donc moi, j'étais dans cette équipe qui devait l'accompagner, voilà comme on fait pour les conférences Cœur du Père, prier pour les gens, etc. J'étais tout excité d'aller en Turquie avec Simon, et 2 ou 3 semaines avant le départ, la maman de Simon a fait un AVC qui l'a bien affaibli, et Simon nous a dit il faut que je m'occupe de ma maman, je ne peux pas partir en Turquie. Et qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il m'a dit, Matt, est-ce que tu veux me remplacer? Et je suis ému de me rappeler de ça, parce que ça m'a, je l'ai pas vu, j'étais bouleversé, quoi. Matt, si tu veux, je te donne mes notes. J'avais prévu des messages, etc. Je te donne mes notes et c'est toi qui vas être orateur de la conférence là-bas en Turquie. Et là, j'étais scotché, quoi. Je me rappelle, on n'en croyait pas. Alors, j'étais pas tout seul. Hein, on est parti avec toute une équipe et on a fait ça à plusieurs. Mais j'étais émerveillé de dire, et c'est pour ça qu'on a cet attachement aussi avec ce lieu, c'est que dans ce lieu, on a rencontré des gens d'une grande authenticité, c'est un peu ce qu'on essaie de vivre aussi, mais aussi des gens qui nous ont fait confiance à l'époque où il n'y avait rien chez nous qui nous qualifiait, entre guillemets. J'ai jamais fait d'études académiques, de théologie, j'ai jamais fait, notre cœur était là. Et on a été en Turquie avec toute cette équipe, et je me suis retrouvé à prêcher 2 fois en anglais, traduit en turc, traduit en iranien, traduit en je ne sais plus, plusieurs langues simultanément, et à voir des choses comme je n'avais jamais vu auparavant dans ce lieu, avec tous ces réfugiés qui arrivaient de pays différents. Et je dis merci Seigneur. Le problème, c'est que je me dis, mais moi aujourd'hui, en fait on a réalisé, ça nous a fait bizarre, que j'ai l'âge aujourd'hui que Simon avait quand je l'ai rencontré. Et ça fait très bizarre, parce que je me dis, pétard, moi, Simon, ça a toujours été mon héros, un peu, depuis que je le connais, depuis 15 ans que je le connais. Et je me dis, mais je ne me sens pas du tout aussi sage, aussi extraordinaire que je voyais Simon à l'époque, si vous voulez. Bon, je sais que je suis pas mal non plus quand même. Hein, j'attendais que vous le disiez, ça vient pas, donc je me l'autodis, c'est pas grave. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Et je sentais Dieu nous, on sentait Dieu nous dire maintenant, mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes prêts à prendre des risques et à faire confiance à des plus jeunes et à faire confiance à des gens qui ont peut-être 10, 15 ans de moins de vous ou des nouvelles personnes pour aussi les lancer, pour aussi les propulser dans ce que Dieu a pour eux. Amen. Et c'est pas qu'une histoire. Et ça, c'est vraiment pareil. C'est pas grave, je ferai pas tout mon message, mais c'est des digressions qui sont tellement importantes. C'est pas qu'une histoire d'église. On redisait dans la voiture ce matin avec les filles, on vient pas à l'église le dimanche matin. On va à l'espace Connect. Ça, ce sont des murs fabriqués avec des agglos. L'église, c'est toi et moi. Et en fait, l'église, c'est pas le dimanche matin. On a malheureusement, et on essaye, je vous promets les amis, ça va changer, que notre vie d'église ne tourne pas tout autour du dimanche matin. Parce que ça, c'est une tradition qui était extraordinaire hein, pendant des dizaines, des centaines d'années. Mais l'église, c'est bien plus que ça. L'église, c'est les disciples de Christ réunis en communion, mais envoyés aussi dans tous les endroits où Dieu nous envoie. Donc, relâcher des gens, ça ne veut pas dire forcément prêcher derrière une chaire avec un micro. Ça, ce n'est pas plus spirituel que d'aller au travail et de bénir ton collègue ou ta collègue, de lui donner une parole sur ton lieu de travail. Ce n'est pas plus spirituel que le choix chaque jour d'aimer ta femme, d'aimer ton mari devant Dieu, tous ces petits choix que personne ne voit que tu fais. Ça, c'est autant spirituel. Ce n'est pas plus spirituel que d'organiser un camion douche tous les 15 jours, de pourvoir comme ça à l'hygiène, à la nourriture, aux vêtements pour des gens. En fait, tout ça, c'est la même chose. Dieu a un appel unique pour chacun d'entre nous. Il nous a tissé, il nous a façonné chacun avec il y a des choses dans notre ADN où on sent qu'on est fait pour ça. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est vrai. Moi, cette carte du Dauphiné que j'ai presque 24 heures sur 24 dans ma tête, je l'ai pas voulu. C'est comme ça. C'est Dieu qui m'a fait comme ça. Et je parle tout le temps. Et on n'arrêtait pas de parler de Grenoble. Et on a eu un coup de fil venu de nulle part de Grenoble. Et il y a eu Grenoble. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, Dieu me dit gap, gap. Je voyais les panneaux de partout. Gap, 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 gap. Et d'un coup, il y a un Jean-Emmanuel qui débarque et nous dit je veux être avec vous. C'est pas, j'y suis pour rien. C'est comme ça. Et toi, là où tu es sur ta chaise, c'est la même chose. Dieu t'a façonné d'une manière. Et être l'Église, c'est chacun être envoyé et être aussi du coup coaché, encouragé par d'autres pour porter du fruit là où il t'a placé. Et c'est pas plus pire d'être... Moi, je voulais, et je suis désolé, je sais que ça froisse quand je dis ça, mais ces expressions homme de Dieu, femme de Dieu, j'ai horreur de ça, les amis. Parce que ça met des carcans que d'être derrière un micro, c'est ça l'appel ultime. C'est pas vrai. Moi, je me sens pas pasteur. Je me sens berger parce que oui, j'aime prendre soin et tout, mais je me sens autant appelé à l'extérieur. Je me sens autant plus appelé plutôt à l'extérieur d'ailleurs qu'ici. Sauf qu'il faut quand même être basé quelque part. C'est important. C'est très très important. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Il y a pas. Il faut arrêter avec cette séparation. J'ai horreur quand on dit oui, moi, je suis salarié de l'Église, mais j'ai un travail séculier. C'est n'importe quoi ça les amis, c'est totalement faux, c'est pas plus spirituel de travailler comme expert comptable, c'est pas moins spirituel d'être expert comptable, d'être audioprothésiste, peu importe le travail que tu fais, c'est chaque jour devant Dieu, comment tu fais ton travail, pour qui, on travaille tous pour Dieu, on travaille tous avec lui et pour lui, amen les amis, et je me suis un peu écarté de Gédéon mais c'est vrai que quand on, comme Gédéon, quand à ce moment-là du moins, on n'est pas conscient de notre identité en Christ, eh ben, ça va amener tout un tas de déviances comme ça et on va chercher notre identité dans des trucs qui en fait ne sont pas du tout là pour ça. Quoi. C'est pas du tout là pour ça. Combien cherchent leur identité dans une place, dans l'église, alors que si ça se trouve, ils ont un appel bien plus florissant dans un autre domaine. Voilà, je pense que le message est bien passé. Non, mais c'est important, les amis. C'est vraiment, et Dieu nous l'a reconfirmé. On a rencontré toute cette organisation, la Kéris. C'est merveilleux. Des centaines d'associations, d'entreprises, de tout ça. Et il y a une condition pour rentrer dans ce réseau. C'est quoi ? En fait, tu peux pas arriver avec ton entreprise et dire je veux rentrer dans ce réseau d'entreprises chrétiennes. Ça peut pas marcher comme ça parce qu'il y a une condition à laquelle tu peux pas déroger. C'est que ton entreprise, ton association, ton business, peu importe ce que c'est, ait un impact dans la société. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Et c'est comme on discutait avec plusieurs de l'Église et tout, par rapport aux braises, par rapport aux groupes de maisons. quelle est la raison d'être de nos braises, de nos groupes, de toute activité qu'on fait en tant qu'église, si le but n'est pas d'avoir un impact dans la société. Amen. Et c'est pour ça que notre vision, c'est adorer Dieu, parce que ça commence toujours par là, la place d'être dans la présence de Dieu, d'être revigoré par le Saint-Esprit, apprendre à vivre comme Jésus et aimer et servir notre ville. Et ça, et je le dis parce que j'ai relisé mes notes, ça a été redit encore ces deux jours à Bedford, ça c'est des choses qui ne bougeront pas. Il y a des choses qui bougeront dans la forme, dans comment on fait les choses, mais dans l'essence de la vision que Dieu nous a donnée, ça, ça ne changera pas. La priorité de la louange et de l'adoration, la priorité de se laisser transformer, d'apprendre à devenir des disciples matures, et la priorité d'avoir un impact là où Dieu nous a envoyés, d'amener son royaume. Amen. Oh là là, qu'est-ce que j'aime dire ce genre de choses, ça me fait du bien à moi-même. Et du coup, ben, si vous voulez, je continue. Verset 16, hein, on est toujours dans Juste 6. Donc l'Éternel lui répondit, « Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » Gédéon lui dit, « Eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, c'est un peu lourd à force. Prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. » Encore une fois, Gédéon, et merci Seigneur qui est tellement patient avec nous, tellement, tellement. On revient toujours, il y a des domaines où on arrive à progresser, mais c'est comme s'il y avait des domaines de notre vie, j'ai l'impression, oh, qu'est-ce que c'est long d'avancer. Mais Dieu continue de déverser, d'équiper, d'encourager. T'inquiète pas mon fils, tu vas y arriver. Amen. Et du coup, Gédéon rentre chez lui. Il y a le, voilà, et bon, je vais pas lire tout, mais vous savez, il y a ce premier signe avec un chevreau, etc. Et l'ange revient et il envoie du feu, comme ça, c'est très important, le feu, il envoie ce feu pour cuire tout ça. Et donc, quand Gédéon, donc voilà, à ce moment-là, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel et il s'écria, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Mais l'Éternel lui dit, rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Et encore une fois, on a parlé des anges à Bedford, et qu'est-ce que ça, et ça m'a rappelé encore quelque chose d'énorme. C'est que, donc là c'est l'ange, hein, qui est très présent dans ce passage, et une fois dans une réunion à Bedford, donc c'était à l'époque où on vivait là-bas, je crois, il me semble que c'était dans ces années-là, 2013-2014, et dans une réunion, d'un coup, j'ai une femme qui vient me voir, et c'était une femme qui avait ce don-là de voir les anges. Et en fait, comme moi, je vous vois, elle voyait des anges. Et bon, c'était une dame, pour les plus sceptiques sur ce genre de choses, c'était une chrétienne vraiment mature et qui était dans l'église depuis des années, et à qui les leaders faisaient confiance par rapport à ce don-là qui avait été éprouvé. Et elle vient me voir et elle me dit, « Matt, tu as un ange derrière toi. » Donc, putain, rien que d'entendre ça, ça fait bizarre. Je me dis, « Ah bon ?» et tout. Elle me dit, « Oui, oui. » Et en fait, elle me dit, mais toi, tu fais cette taille-là, l'ange que je vois, et elle le regardait. En fait, c'était un être qui faisait à peu près 4 mètres de haut, 3 mètres de haut, quelque chose comme ça. Un peu comme un Goliath gentil, quoi. Et elle me dit, je le vois derrière toi, et il tient une énorme épée. Et en fait, elle le voyait partout où j'allais, il était derrière moi. Toujours, il était derrière moi, avec une énorme épée. Et Dieu lui a révélé le nom de cet ange. C'est pas courgette, c'est courage. Une fois en racontant l'histoire, on a mal compris, quelqu'un a cru qu'il s'appelait courgette. Non, il s'appelait pas courgette. Non, cet ange s'appelait courage. Et au moment où Meryl, elle s'appelle cette chère dame, m'a dit ça, j'ai vraiment senti la présence de Dieu. Et en gros, elle m'expliquait, partout où tu vas, tout ce que tu fais, cet ange est là. Il est avec toi, quand tu vas là, il est là, quand tu vas là, il est là. Et c'est un ange qui te protège, cet ange s'appelle courage, c'est un ange qui te permet, qui te transmet comme ça, ce courage de faire tout ce que Dieu te demande de faire. Et voilà, j'avais un peu oublié tout ça, je vous avoue, je l'avais un peu mis de côté, et alors que ce sujet des anges est revenu pendant cette conférence, je me suis dit, mais merci Seigneur pour tes anges, parce que même si on n'en est pas conscient, ils sont là, et ils sont attirés par nos louanges, c'est aussi leur ministère. Et combien de fois ils agissent en notre faveur, pour notre défense, combien de fois ils protègent nos enfants, combien de fois, moi je me rappelle, nos filles, elles ont eu des trucs, on s'est dit, pétard, mais c'était à un cheveu, vous savez, une voiture qui passe, un truc, à un cheveu, mais les anges sont là, les amis, les anges sont là. Je vous ai raconté l'histoire où je devais me noyer, j'étais dans ce canoë, et non, Dieu a envoyé, je le crois, c'était peut-être celui-là d'ailleurs, je ne sais pas. Enfin bon, on revient à notre Gédéon. Et parce que j'aimerais bien quand même arriver aux 300. Et du coup, donc qu'est-ce qui fait Gédéon là, juste après ce signe, construisit à cet endroit un autel à l'Éternel, et il l'appela l'Éternel assure la paix. Donc ça, retenez, c'est très important que Gédéon construise à cet endroit-là un autel. Et qu'est-ce que c'est un autel? Ça représente la louange, ça représente l'adoration. Un autel, c'est un lieu symbolique où Dieu s'est manifesté. Et ça représente la présence de Dieu. La nuit suivante, donc là c'est verset 24 ou 25, « La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et le second, celui de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau sacré qui est dressé à côté. » C'est un truc de fou. Le père de Gédéon, donc un bon juif israélite, avait construit un autel à Baal avec le poteau sacré qui lui était associé. Donc vraiment, ils se sont détournés de Dieu, ils ont adopté d'autres dieux. Et là, qu'est-ce que fait Gédéon ? Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il a progressé là, Gédéon. Mais comme il n'osait pas agir en plein jour, bon, un peu, voilà, quand même, par crainte de sa famille et de ses habitants du village, il opéra de nuit. Mais ce que j'aime, c'est que c'est comme si on voit dans ce passage, au début, Gédéon, il revient beaucoup à la plainte, à se dévaloriser, etc. Là, il n'y a pas ça. Il prend les 10 hommes, bon, ok, c'est de nuit pour se cacher, mais bon, c'est peut-être sage quand même, quoi. Et il discute pas, il dit pas, oui, mais Seigneur, moi, pourquoi ? Non, il le fait. Et là, les amis, ça nous a tellement parlé, je sais, à la famille Sarkis aussi, ce côté obéir. Et ce côté détruire cette idole, ce dieu Baal. En fait, j'ai regardé Baal, je ne sais plus dans quelle langue antique de l'époque, mais ça veut dire seigneur, maître, en gros. Et vraiment, c'est l'idole quoi, qu'on met à la place de Dieu dans notre vie. Et là, Gédéon obéit. Et combien de fois, les amis, et ça nous a encore été parlé, rappelé à cette conférence, combien de fois on tolère des Baals dans nos vies, des idoles, des choses. Et c'est rigolo, je vous raconte, c'est un peu humoristique, mais... Phil nous parlait par rapport au péché hein, qui nous enserre si facilement, Hébreux 12, et il donnait cet exemple un peu des limitations de vitesse, vous savez. Comme s'il y a des choses qu'on pense qui ne sont pas graves et qu'on tolère dans notre vie, qu'on accepte et qu'on fait, on se dit « oh, c'est rien ». Et du coup, hier, donc, nos filles étaient gardées par mes parents à Nîmes, et du coup, on est atterri vendredi soir tard, donc hier matin, je suis parti à Nîmes chercher les filles, et du coup, je vais sur l'autoroute et tout, et je mets mon régulateur, et instinctivement je le mets à 134, vous savez, parce que je sais que c'est à 135 ou 136 que les radars se déclenchent. Et là, au moment où je fais ça, tac, je me rappelle le message de Phil et je me dis mais c'est pas possible quoi, on est tous pareils. Et parce que bon, certains ont des permis avec un petit peu moins de points que d'autres et doivent faire des stages, je ne viserai personne, mais quand même on est tous pareils quoi. Et du coup j'ai dit mais Seigneur non, et j'ai remis mon régulateur à 130 et ça s'est très bien passé. Et alors ce matin, j'en parlais à Emmanuel, donc j'étais tout fier de lui raconter ça. Mais je dis, mais quand même, il y a des fois où je doublais, donc là j'augmentais la vitesse. Non, mais quand c'est pour doubler, c'est légal, hein, non, c'est bien ça, c'est légal pour. Et elle me disait, non, je crois que pour doubler non plus, c'est pas légal. Donc voilà, c'était. C'est rigolo, mais juste une image de péché qu'on tolère, qu'on considère comme pas grave, en fait, dans nos vies. Mais ça, c'est un exemple un peu rigolo, quoique les points défilent vite après. Mais il y a des choses, voilà, ça peut être des substances, ça peut être des habitudes, ça peut être des choses qu'on regarde sur Instagram, sur Internet, des liens sur lesquels on va cliquer qu'on ne devrait pas, ça peut être plein de choses dans notre quotidien. Et Dieu nous demande d'être intraitable avec ces balles de nos vies, de les éradiquer. Et il y a un très bon moyen de faire ça, c'est de se confesser les uns aux autres. Comme 1 Jean dit, si nous sommes dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Du coup, je sais que tu as des balles dans ta vie, parle-en à quelqu'un. Je sais que je répète ça souvent, mais c'est tellement important. Moi, j'ai mon ami Olivier, j'ai ma femme, des gens à qui je peux ouvrir mon cœur et dire, bah, tu vois, là, dans ce domaine-là, je sens que j'ai vraiment du travail, il y a encore un balle dans ma vie. Et on prie ensemble, et si on confesse nos péchés, ben Dieu est fidèle et bon pour nous pardonner, nous laver de toute injustice. Amen. Mais faisons tomber ces balles, et là, il a été très bon Gédéon. On l'a un peu critiqué, mais là, on peut le féliciter et dire bravo Gédéon d'avoir obéi. C'est pas évident hein, de faire tomber les idoles de son père en plus. Hein. Donc ça remet en question vraiment sa famille, ça remet en question son éducation, mais il a osé. Et ça, c'est fort. Bon, après, j'accélère parce que je voulais aborder ces 300. Mais il y a deux autres signes. Vous savez, cette fameuse toison. Et il a besoin de confirmation sans cesse, Gédéon. Et du coup, on arrive aux 300. Et j'essaie de me retrouver dans les versets. Ah oui, juste ce que je voulais vous dire, juste 7 verset 1, on passe au chapitre 7. Le lendemain matin, Yérubaal, c'est-à-dire Gédéon. Et en fait, le fait qu'il ait détruit le Baal, eh ben son nom est changé. C'est comme si ça lui donne ce nouveau surnom, on l'appelle Yérubaal, pour dire que, parce que ça, Yérubaal, ça veut dire que Baal se défende. Parce qu'il y en a qui avaient reproché au père de Gédéon qui est plus le statut, la statue, tout ça, et il avait dit, ben il avait pris gain de cause pour son fils, en fait, en dire que Baal se défende. Donc l'acte d'obéissance de Gédéon définit son identité, et ça, c'est bon. C'est que des fois c'est dur, mais quand on se positionne, quand on choisit d'obéir à Dieu, et ben ça change notre identité, ça nous fait vraiment grandir comme ça nous fait passer un palier. Ça me rappelle un ami, je tairai son nom, mais très peu le connaissent, mais juste ça m'a époustouflé, un ami d'une autre église Connect, à qui j'ai échangé la semaine dernière, et qui me disait, Matt, il est dans un travail où il a un grand succès, un travail dans une grande entreprise, et il gagne bien sa vie, et c'est beau, quoi. Dieu lui a permis d'être dans cette entreprise. Et en fait, mais il était très peu à l'aise avec la culture de l'entreprise, avec beaucoup de choses contre Dieu, quoi, beaucoup de mensonges, beaucoup de je sais pas comment dire, de triches, de magouilles, quoi, si vous voulez. Et il voulait quitter cette entreprise, quoi. Et du coup, un jour, il a trouvé le courage de parler à son boss et lui dire non, mais parce qu'en fait, il a un autre ami qui lui a proposé de le rejoindre, travailler avec lui. Il s'est aligné au salaire, etc. Donc super. Sauf que du coup, est arrivé le jour où il a donné sa lettre de démission, quoi, à son chef. Et son chef lui a dit, mais non, surtout ne pars pas, je double ton salaire. C'est quelqu'un qui avait déjà un salaire confortable, je double ton salaire. Donc ça montait dans des chiffres vraiment dingues. J'embauche ta femme, je paye ici, je paye ça. Enfin, en gros, c'était, tu sais, tu sens l'ennemi qui met le paquet, quoi, pour te garder avec lui. Il a tenu ferme, il a dit non. Il a dit, jusqu'à présent, ça allait. Il arrivait à, vous savez, par rapport aux décisions, à rester clean. Mais il sentait que s'il continuait dans cette entreprise, ben, il ne pourrait plus être clean. Et il a choisi de quitter comme ça. Et ben oui, avec beaucoup moins la réussite humainement qui où ça aurait été ça, ce chemin. Mais waouh, quoi. Je me dis, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, quand on peut faire des choix comme ça. Et c'est pas anodin, quoi. Et je pense que toute sa famille va en bénéficier, mais même que c'est quelque chose qui va avoir un grand impact dans la ville où il est, parce que c'est jamais anodin. Les choix que tu fais, et ça, je voulais vraiment le redire, on a encore, j'en profite pour faire des liens avec ce qu'on a vécu à Bedford, mais les choix que tu fais dans le privé, les choix que tu fais, moi je vous parle, je tais le nom de cette personne, mais les choix que tu fais dans le privé, eh bien, vont avoir un retentissement public d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que Dieu nous appelle. Il te dit, quand tu pries, vous savez, hein, dans Luc, quand il explique comment prier, Jésus, il dit, va dans ta chambre. Il y a vraiment ce secret, dans le lieu le plus reculé, il y a ce secret de l'intimité avec Dieu. Les décisions que tu prends quand personne n'est là, quand personne regarde, là tu passes des paliers. Et là tu grandis en autorité. Et là, comme Gédéon, ton identité. Gédéon, je pense que c'est pour ça que ça s'est passé la nuit aussi. Certes, c'était par crainte des Madianites, mais à ce côté, personne l'a vu faire cela. C'était caché. Mais derrière, ça lui a permis d'arriver à cette grande victoire. Où du coup, où Gédéon rassemble tous les hommes pour combattre les Madianites. Ils arrivent à, je crois, 22 000, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que dit l'Éternel à Gédéon, verset 2 ? Ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon, les Israélites s'en vanteraient à mes dépens en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Et Dieu nous connaît tellement bien. Il sait que notre cœur, c'est de l'honorer, de faire comme, voilà, de vraiment l'honorer, le faire plaisir, le louer. Mais il sait qu'aussi que notre cœur est bien souvent influençable, corruptible, et que quand on se retrouve dans des positions comme ça, quand on a des grands succès, quand on se retrouve en position d'autorité, quand on se position de leader, quand on a le micro comme ça dans les mains, eh ben, il y a cette tentation toujours qui est là, de dire wow, « Waouh, c'est grâce à moi, c'est grâce à… » Et j'ai, ah ben, quelque part, j'y suis pour quelque chose, hein, c'est quand même… vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, qu'est-ce que Dieu lui demande de faire ? De trier, il y a ces deux tris qui sont faits, et il se retrouve, Gédéon, de 22 000, il passe à 300 guerriers. 300 guerriers. Et vous connaissez, je ne vous redis pas l'histoire, mais vers minuit, donc d'abord il a la confirmation qu'il va gagner, hein, et vers minuit ensuite il s'approche comme ça du camp des Madianites, et il sépare les 300, donc il y a trois groupes de 100 comme ça, et qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains, tous ces guerriers ? Deux choses, un corps et, donc et selon les traductions, il y a écrit trompette ou corps, mais ce matin j'étais un peu en panique, j'ai appelé mon papa, quoi trois ? Oui, ma fille me corrige, ils ont trois choses dans les mains. Oui, sauf qu'il y a une chose qu'on ne voit pas, parce que donc ils ont le corps, la trompette. Dans l'autre main, ils ont des cruches vides. Hein. Je pense que c'était des cruches qu'ils devaient utiliser. En fait, les amphores, hein, à l'époque, étaient utilisées pour contenir ben, voilà, toutes les denrées alimentaires, mais aussi le vin, etc. Donc ils avaient récupéré tout ça, ils avaient mis à l'intérieur des torches enflammées. Et du coup, il y a ces trois groupes de personnes. Et ben voilà, d'un coup, ils cassent les cruches. Hein. Il y a les trompettes qui résonnent. Et là, vous savez ce qui se passe. Ils n'ont rien à faire. En fait, ils n'ont même pas d'armes. C'est ça que je trouve extraordinaire, c'est qu'ils n'ont même pas d'armes. Et c'est les Madianites eux-mêmes qui sont paniqués. Et je pense que Dieu envoie, c'est écrit, la confusion dans leur rang. Et là, ils se mettent à s'entretuer les uns les autres et à fuir. Et puis après, on sait derrière que le reste d'autres tribus d'Israël ben, les attrapent un peu plus loin à rebrousse-poil. Et c'est tellement énorme de voir. Et ça m'a intrigué, ces objets, ces torches dans des amphores, là, et ces corps, ces trompettes. Et vraiment, la torche dans les cruches, ça m'a vraiment fait penser à la lumière, au feu de l'esprit, le feu de l'esprit de la présence de Dieu qui était là. Et je pense que je vous ai parlé tout à l'heure, l'autel de louange, je pense que l'autel que fait Gédéon, je pense que l'obéissance qu'il a, eh ben ça, ce sont des choses qui attirent la présence de Dieu. Il s'est positionné, il a construit cet autel d'adoration à Dieu, il s'est positionné dans ce choix courageux. Ça, ce sont des choses qui attirent la présence de Dieu et qui est symbolisée par ce feu qui est dans ces amphores, dans ces cruches, je ne sais plus comment on dit. Donc, c'est vraiment le feu. Et de l'autre côté, il y a les cors, il y a les trompettes. Et je paniquais un peu ce matin, mais je voulais qu'on... On a amené notre chauffard qu'on a acheté à Jérusalem. On l'a oublié ? Si, si, il est dans ma poche. Il est dans ma poche derrière la... Oui, c'est un petit chauffard. Ben, c'était le chauffard, la route, le régulateur. Vous voyez vous voyez les liens un peu dans le message ? Non. Bravo, merci, merci, merci. Non, non, je plaisante, mais j'avais vraiment à cœur, dans une seconde, qu'on puisse sonner du chauffard. C'est quelque chose que je ne sais pas si on l'a déjà fait, d'ailleurs. Jamais, peut-être. Si, peut-être une fois, il y a très longtemps. Enfin, bon, peu importe. Mais pourquoi ? Pourquoi ce chauffard, ça m'a parlé ? En fait, ce matin, j'ai appelé mon papa en panique. Il doit partir en voyage cet après-midi. Je l'ai eu... juste à temps, parce qu'il a un Ancien Testament en hébreu, il sait lire l'hébreu. Et en fait, dans certaines traductions, vous avez écrit trompette, dans certaines traductions, vous avez écrit corps. Mais en fait, dans l'hébreu, ce sont bien des chauffards. Ce sont bien des chauffards, donc je voulais être sûr. Du coup, ils avaient ces cornes de bélier, là, qu'ils ont sonnées. Et c'est impressionnant. C'est au son de ces cornes de bélier. Plus ces amphores, ces cruches qui sont tombées par terre et cette lumière qui a jailli, c'est ça qui a mis la confusion dans le camp de l'ennemi. Et j'ai réfléchi à ces chauffards. Qu'est-ce que c'est les chauffards ? C'est des cornes, c'est une corne dans laquelle on souffle. Qu'est-ce qu'on souffle ? On souffle de l'air. L'air, c'est quoi ? Ça représente le souffle de Dieu, ça représente la parole de Dieu. Vous savez que notre parole, qu'est-ce que c'est ? C'est du souffle, tout simplement. C'est du souffle qui fait résonner nos cordes vocales. C'est de l'air qui fait résonner vos cordes vocales. Et vraiment, ça m'a fait penser à la parole et à l'esprit. Il y a un équilibre qu'on veut vivre dans notre église entre la parole et l'esprit. Et ça, c'est quelque chose, rendons à César qui est à César, à King's Arms, qui fait partie de cette vieille, maintenant, famille Nouvelle Frontière qui est née dans les années 60. Et ce que j'aime dans cette famille d'église, ça c'est quelque chose qu'on gardera toujours dans notre ADN, c'est l'équilibre entre la parole et l'esprit. On veut être des gens qui ont les deux, et pour qui les deux a une importance, et les deux se complètent, et l'un sans l'autre est déséquilibré. Amen. C'est comme si des fois, il y a des gens qui sont très bons dans la parole, mais qui sont un peu secs au niveau de l'esprit, et il y a des gens qui sont un peu trop dans que l'esprit, foufou, tout ça, mais du coup font un peu peur, et parfois oui, il y a des débordements, parce qu'il n'y a pas cet équilibre. Et là, les 300 guerriers, j'aime, ça me fait penser au film 300, vous savez, il y a ce côté guerrier, ils y vont, mais sans armes. Et qu'est-ce qu'ils ont comme arme ? La parole et l'esprit. Et ça m'a parlé, j'ai dit, Seigneur, mais merci. Et juste pour terminer, mon dernier point, c'était par rapport au chiffre 300. C'est qu'en fait, par rapport aux 22 000, c'est rien, quoi. C'est rien du tout. Les Madianites, ils étaient encore bien, bien, bien plus nombreux que ça. C'est plusieurs centaines de milliers. Donc 22 000, bon, voilà. Mais 300 par rapport à plusieurs centaines de milliers, les proportions sont totalement irréelles, quoi. Sauf qu'ils ont eu une victoire éclatante, à plat de couture. Et ça nous a parlé, alors qu'on était encore à Bedford, ça a été évoqué sur ce qu'on veut vivre en tant qu'église, en tant que réseau, en tant qu'œuvre apostolique. Encore une fois, j'utilise des grands mots, mais c'est apostolique, ça veut juste dire envoyé dans toute cette région du Dauphiné. Et cette multiplication, elle va passer par tout type de... Alors oui, dans le business, oui, dans tous les domaines, un peu comme on a dit. Mais surtout quand même dans le business, par rapport à notre église, c'est très important. On a un appel spécifique dans ce domaine. Il y a plein de chefs d'entreprise au milieu de nous. Donc ça, c'est notre ADN aussi. Mais en termes, si on parle d'église, de rassemblement, de communauté, eh ben voilà, ce chiffre 300 nous montre que, oui, peut-être il y aura des grandes églises, mais il y a aussi des petites églises. Et là, je veux vous encourager pour vos braises. En fait, une braise, un dimanche matin, c'est exactement la même chose. Ce sont des disciples de Christ qui se réunissent, qui sont en communion pour avoir un impact ensuite là où ils sont. Et du coup, dans ces projets, dans ces nouveaux projets d'implantation d'église, on a vraiment senti Dieu nous dire, ne faites pas dans le futur comme vous avez fait depuis 10 ans. En fait, ça va prendre plein de formes différentes. La forme va être différente. Peut-être qu'il va y avoir des grands rassemblements, peut-être qu'il va y avoir des petits rassemblements, peut-être qu'il va y avoir des petits rassemblements qui vont se réunir aussi en grands rassemblements entre eux. Vraiment, Dieu nous a encouragés à être ouverts et surtout à faire comme Gédéon a fait là, à écouter Dieu pour avoir sa sagesse divine. Sa sagesse divine qui bien souvent ne va pas dans le même sens que la sagesse humaine, et ce qui peut paraître fou aux yeux des hommes, 300 guerriers, eh ben, va avoir un impact qui va détruire des centaines de milliers. Et on croit que si on est obéissant à ce que Dieu nous dit, si on a ce bon équilibre entre sa parole et son esprit, si on fait de la place pour que sa présence soit manifestée au milieu de nous, que des miracles soient manifestés, que nos cœurs surtout soient touchés, hein, c'est ça le but des miracles, des manifestations, c'est que nos cœurs soient transformés, eh bien là, on va pouvoir accomplir la mission que Dieu a pour nous. Amen. Et j'avais vraiment un cœur, quelqu'un peut se mettre à la guitare ou quoi, j'avais vraiment un cœur qu'on prenne quelques minutes là pour se recueillir devant Dieu, pour vraiment lui dire merci pour tout ça et le laisser encore nous parler à nos cœurs, et puis qu'on puisse sonner ce chauffard aussi, mais vraiment dans une atmosphère de prière. Vous voyez les amis, laissez-vous interpeller par cet instrument. Cet instrument, si vous avez suivi l'actualité ces dernières années, il y a eu la guerre des 6 jours, je crois que c'était les années 60, il me semble, en Israël, où il y avait ce chauffard comme ça qui sonnait, et il s'est passé lors de la guerre des 6 jours, grosso modo, ce qui s'est passé avec Gédéon et les Madianites, où Israël, ce tout petit pays nouveau qui était encerclé par toutes ces grandes nations, eh bien, ce sont ces grandes nations qui ont perdu le combat. Il y avait des armées d'Élysée qui sont venues à ce moment-là. Et le chauffard résonnait. Le chauffard résonnait. Alors Seigneur, on est devant toi ce matin. Peut-être on peut se lever comme signe de... Voilà, on est...